T'as voulu voir Vierzon et on a vu Vierzon. T'as voulu voir Vesoul et on a vu Vesoul. T'as voulu voir Honfleur et on a vu Honfleur. T'as voulu voir Hambourg et on a vu Hambourg. J'ai voulu voir Anvers, on a revu Hambourg. J'ai voulu voir ta sœur et on a vu ta mère. Comme toujours.
Tranche de vie, une émission proposée par JF.
T'as plus aimé Vesoul, on a quitté Vesoul. T'as plus aimé Honfleur, on a quitté Honfleur. T'as plus aimé Hambourg, on a quitté Hambourg. T'as voulu voir Anvers, on a vu que c'est Faubourg. T'as plus aimé ta mère, on a quitté ta sœur. Comme toujours.
Chers amis de Tranche de vie, je suis aujourd'hui chez Jean-Claude, qui nous a fait l'amitié de nous recevoir pour nous parler de son existence active, extrêmement riche. Jean-Claude tient aujourd'hui un magasin de tissus bien connu. Il s'agit de Totem à Marsac. Et lorsque vous rentrez dans ce magasin, vous êtes épaté par la diversité des choses qui s'offrent à votre vue, même si vous ne faites pas partie de la clientèle féminine qui doit dominer chez lui. Jean-Claude va nous parler de son itinéraire professionnel et de sa vie extrêmement active et qui continue à l'être. Jean-Claude, bonjour. Merci de parler à nos auditeurs. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous êtes arrivé là? Quel a été votre itinéraire pour venir finir ici à Marsac en dirigeant ce magasin?
Oui, tout d'abord, bonjour. Alors, votre première question, comment je suis arrivé là?
Voilà. Quelle a été votre formation et qu'est-ce que vous avez fait successivement pour arriver ici?
Alors, ma première formation, ça a été un hasard pur et simple. La société Electrolux, réputée et bien connue pour vendre des aspirateurs en porte-à-porte, a passé une annonce. Sans emploi, je me suis présenté. Bon, à ma grande surprise, cette annonce demandait un vendeur au magasin. Et lorsque le responsable m'a reçu, il m'a dit « ben voilà, la place est prise ». Par contre, nous recherchons un représentant en porte-à-porte. Est-ce que ça vous tente? Bon, j'avais jamais fait ça. J'ignorais totalement de quelle façon il fallait s'y prendre. Donc, il y a eu une période de 8 jours pour apprendre une méthode et après 8 jours d'application sur le terrain. Il fallait avoir une voiture. À l'époque, je n'avais pas d'argent, pas de voiture. Alors, le responsable me déposait en bas d'un immeuble avec ma valise et mon aspirateur. Il me disait, voilà, vous sonnez aux portes et vous faites des démonstrations. C'était déjà très, très compliqué, très difficile. Lorsqu'on frappe à une porte, on se demandait qui allait ouvrir et comment on allait être reçu.
Et ça, c'était la France des années 60.
Ça, c'était la France... Non, non, là, vous me vieillissez, c'est la France des années 70. Ah,
pardon.
70, et on avait... Alors, dans ce métier, on avait la chance. C'est qu'en 1970, il y avait encore beaucoup de femmes au foyer. Chose qu'il n'y a quasiment plus aujourd'hui. Et pour les démonstrations, c'était relativement facile, je dirais. Le plus compliqué, c'était de pénétrer dans l'appartement ou la maison. Et là,
votre travail, votre astuce, le pied dans la porte.
Le but était d'intéresser. Non, non, pas de pied dans la porte. Non, il y avait une méthode qui était très au point, assez plaisante d'ailleurs. Et le but était de présenter un appareil à la maîtresse de maison. Et si elle ne pouvait pas prendre la décision, nous prenions rendez-vous pour rencontrer le mari le soir. Et puis, on essayait de les convaincre. Voilà, ça c'était mon premier pas en entreprise. Hein. Alors...
Mais alors... Oui. Ça, c'est venu après une jeunesse où vous n'aviez pas d'orientation précise, vous n'aviez pas encore déterminé ce que vous vouliez faire.
Absolument. J'ignorais que j'avais peut-être des talents de vendeur. J'ai parcouru une bonne partie de l'Europe en 1968, 69 et 70, en autostop. Je voulais voir, bon, suite aux événements de 1968, je voulais voir si dans les autres pays tels que l'Allemagne, l'Italie, l'Autriche, etc., il se passait les mêmes choses qu'en France. Effectivement, c'était le même phénomène. Il y avait des manifestations et des revendications, notamment de la jeunesse, où on avait un certain mal de vivre.
Donc ça a été votre voyage d'initiation. Vous l'avez fait volontairement ?
Je l'ai fait volontairement. Il y a eu des moments très pénibles, à savoir dormir dans la neige, à savoir, travailler dans des usines, pendant 8 jours, accepter n'importe quel poste, parce qu'il fallait quand même manger, et puis survivre. Après, il y avait quand même des découvertes. On se faisait des copains, des copines, on rencontrait des gens fort intéressants, des gens qui comprenaient bien souvent la démarche et qui nous aidaient en nous donnant un petit billet, ce qui nous permettait de poursuivre le voyage.
Et puis il y avait une certaine fraternité quand même à cette époque entre les gens qui avaient, les gens de la jeunesse qui avaient les mêmes aspirations.
Ah oui, tout à fait, il n'y avait absolument pas cet égoïsme que l'on peut découvrir aujourd'hui, c'est-à-dire le chacun pour soi. Là, il y avait beaucoup de comment dirais-je, les gens vous recevaient d'une façon fraternelle, la porte était ouverte, je vous dis bien, on dormait un peu n'importe où. Dans les champs, etc., chose que je ne pourrais plus faire aujourd'hui, compte tenu de certains risques. Et puis, il y a quand même des inconvénients. Il y a la répression, parce que lorsque vous êtes un peu vagabond, on vous demande ce que vous faites là. Et il y a des contraintes, on vous emmène au commissariat, on vous pose des questions. Chose qui m'est arrivée en France en revenant. En revenant en France, je suis arrivé sur la Côte d'Azur et comme par hasard, bon, c'était très bien. On était toute la journée sur la plage et le soir, il fallait dormir quelque part, on dormait sur la plage. Et le matin, les policiers arrivaient et nous malmenaient un petit peu pour qu'on s'en aille de la plage. Parce que, naturellement, les braves gens venaient, se baigner et se reposer au soleil.
Voilà. Soyez tranquille, ça m'est arrivé aussi. Alors, donc, vous rentrez après ce voyage d'initiation en France et vous rentrez directement dans le dur, c'est-à-dire dans le métier, et dans ce métier de placeur, placier, d'aspirateur.
Oui, et comment dirais-je, je me suis pris au jeu, en fait, parce que après tout, il fallait travailler, il fallait vivre, et puis on avait un peu abandonné l'esprit 68 et on rentrait dans la vie active. Et puis cette société, si vous voulez, crée des besoins naturellement. Donc pour satisfaire ces besoins, il fallait travailler, donc gagner de l'argent. Electrolux était naturellement le déclencheur. C'est une formation extraordinaire. D'ailleurs, je dois le citer, j'ai eu comme collaborateur et comme partenaire M. Ginesté des magasins Jiffy, qui a également, lui, fait ses armes chez Electrolux à mes côtés. Et voilà où il en est aujourd'hui. Alors après, naturellement, ce n'est pas une fin en soi. Aller faire du porte-à-porte, c'est un peu ingrat. Même si on gagne de l'argent, c'est fatigant, c'est contraignant. J'ai décidé d'abandonner le porte-à-porte. Et j'ai un ami, une relation, qui m'a proposé de faire de l'immobilier. chose que je n'avais jamais fait, mais on m'a bien dit que lorsqu'on est vendeur, on est capable de tout vendre.
Vous aviez découvert que vous aviez la bosse du commerce, et donc vous êtes passé à autre chose.
Voilà. Oui, quelque chose de peut-être, à mes yeux, ça me paraissait plus noble, alors qu'après tout, la vente reste la vente, et le client, c'est toujours le même. C'est-à-dire la personne qui nous permet de vivre et de travailler. Dans l'immobilier, j'y suis resté 10 ans. Très bonne réussite. Malheureusement, il y a eu des petits déboires économiques. Monsieur Raymond Barre nous a pas facilité la tâche. Et puis, on avait connu les années 76, 78, qui étaient très propices à l'immobilier. Et les années 80, on a vu les robinets de crédit se fermer et ça devenait pénible.
Et là, on était sortis des 30 glorieuses et puis on s'enfonçait dans des années beaucoup plus difficiles.
Tout à fait. Et aujourd'hui, on en a le résultat concret. Hein. Alors, il s'avère que en 1978, j'ai eu une fille. Donc, en 1984, ma fille avait 11 ans et je devais prendre une décision où je restais sur la région parisienne et naturellement, elle faisait toute sa scolarité, tout ce secondaire sur Paris, ou bien je partais en province, puisque j'adore la campagne. Et là, bon, je pensais qu'elle aurait eu une vie, qu'elle a eu d'ailleurs, un peu moins trépidante, un peu moins risquée que la banlieue parisienne. Alors je suis venu en Dordogne, et là, pas question de faire de l'immobilier. J'ai donc décidé, puisque j'aime beaucoup l'art, j'ai décidé de faire de l'antiquité. C'est pareil, chose que j'ai faite, alors très compliquée au départ, bien entendu. Et après deux ans d'un peu de souffrance, j'ai réussi à percer. Et là, La vie était belle, la vie était merveilleuse.
Alors, pour cette nouvelle activité, vous l'avez choisie par goût, comme vous dites, puisque vous aimez les objets artistiques, l'art en général. Est-ce que pour ça, vous aviez une formation, ou est-ce que vous êtes formé aussi sur le tas, c'est-à-dire que votre formation sur le tas accompagnait un goût naturel?
Alors, en réalité, en Dordogne, j'ai eu la chance de rencontrer un de mes anciens patrons, qui lui était également installé en Dordogne, et qui faisait de l'antiquité. L'antiquité, je connaissais, enfin, quand on est antiquité. Antiquité, c'est un grand mot. On disait brocante, bibelot, etc. Bon, je m'étais toujours intéressé à ce type d'objet. Et lui faisait naturellement de l'antiquité. Et il m'a proposé une association, c'est-à-dire acheter des meubles, des bibelots, faire après les salons nationaux pour les vendre. Et là, c'était également très compliqué parce qu'on devait s'absenter entre 8 et 15 jours de son domicile, hein, fréquenter les hôtels, faire du camion, décharger les camions, c'était quand même pénible. Bon. Ça a très très bien fonctionné. Au bout de 2 ans, ça commençait à prendre forme. Et puis malheureusement, au bout de 3 ou 4 ans, en fait, d'activité dans l'Antiquité, il y a eu la guerre du Golfe. Et là, naturellement...
La première, c'est-à-dire que ça nous mène à 91, ça.
90. 90. Alors 90, là, le marché s'est effondré. Le marché s'est effondré et ça a été un grand tournant pour l'antiquité, notamment pour tous les gens qui font antiquité et brocante, puisque nous avions beaucoup d'étrangers, notamment des Américains, qui venaient en Périgord, qui en profitaient pour acheter, etc. Alors, ces clients ne venaient plus, dans la mesure où le dollar qui avoisinait les 11 francs à l'époque, on était en francs, qui avoisinait les 11 francs, le dollar était donc tombé à moins de 5 francs. Et ces gens-là ne pouvaient plus se permettre le voyage et se permettre des fantaisies ou des achats un petit peu coup de cœur. Alors, dans la mesure où j'avais réussi à ouvrir un magasin, il fallait bien, comment dirais-je, le faire tourner, puis il fallait travailler. Et j'ai eu de la chance en fouinant un petit peu, puisque l'antiquaire fouine un peu, j'ai rencontré un industriel du tissu qui m'a présenté comment dirais-je son entreprise et présenté des stocks de tissu. Il m'a dit, ben voilà, ça on n'arrive pas à le vendre, ce qu'il faudrait c'est quelqu'un qui réussisse à nous le distribuer. Ou à nous aider à liquider les stocks. Alors, j'ai acheté quelques pièces de tissu et j'ai tenté le coup. Et je me suis rendu compte qu'il y avait un gros potentiel. Et naturellement, des magasins de tissu, malheureusement aujourd'hui, il n'y en a plus beaucoup. Et ça nous a permis, en faisant, je dirais, entre 70 et 80 000 km par an, à peu près, de camion, c'est-à-dire que je passais quasiment ma vie en camion. Je visitais les usines et j'achetais leur fin de série, j'achetais par lot, ce qui plaisait à tout le monde. Ces tissus, on ne les revendait pas tous en magasin, mais on les revendait également sur les marchés, on faisait les marchés. C'était pénible, parce que là, c'était contre vents et marées. Hein. Le matin, vous vous leviez, il pleuvait. Eh bien, il fallait vraiment se mettre le coup de pied aux fesses pour aller, par exemple, à Brive ou à Limoges.
Déballer, remballer, faire l'étalage, tout replier, recharger, décharger.
Ah oui, tout à fait, puisque lorsque j'ai commencé à faire la vente sur les marchés, j'avais un break 505, hein, c'est-à-dire que j'avais 4 tréteaux et 2 planches, et puis quelques pièces de tissu. Ça, c'était au début, et à la fin, nous faisions le marché de Périgueux, et nous avions un banc de 30 mètres linéaires. Donc, ça commençait à prendre forme. Et après, on a décidé d'agrandir le magasin et de s'étoffer, de rechercher des tissus un peu plus, on va dire, classe, un peu plus mode, et puis des tissus qui se vendent au cours. Hein. Donc, aujourd'hui, ben, je crois que sur Périgueux, nous avons le magasin certainement le plus...
Le mieux achalandé.
Voilà, oui. Le mieux achalandé, et surtout, on essaie de satisfaire la demande de la clientèle, hein, ce qui est compliqué quand même, puisque c'est quand même vaste comme commerce.
Ce travail vous amène quand même toujours à vous déplacer, à aller dans les salons, à aller chez les fournisseurs, ou est-ce que vous êtes aidé pour le faire?
Alors, déjà, les salons, jamais, on n'y va jamais. On n'y va jamais parce que d'abord, ça coûte très cher. Ensuite, c'est compliqué parce que déjà, il faut trouver à se garer. Ce sont des grands bâtiments, des milliers de mètres carrés à visiter. Et puis, on ne peut pas tout enregistrer rapidement. Ce sont surtout, ce qui nous intéresse, les productions à échelle humaine, n'est-ce pas ? Donc, nous faisons venir les représentants. D'ailleurs, très souvent, on n'a pas besoin de les faire venir, c'est eux qui nous téléphonent pour prendre rendez-vous. Il nous arrive de rendre visite à des ateliers pour voir comment ils travaillent, voir les produits qu'on ne nous présente pas nécessairement. effectivement aussi voir s'il reste quelques bonnes affaires à faire. On n'a pas changé tout à fait notre mode de travail, mais on se déplace beaucoup moins. Ça me permet maintenant de faire du potager si j'ai des heures creuses.
on va venir tout à l'heure à vos autres passions, mais votre entreprise, c'est une entreprise familiale.
Oui, puisque en réalité, nous sommes quatre personnes, n'est-ce pas ? Il y a mon fils, ma femme, ma collègue, en la personne de Mademoiselle Robin, qui est à mes côtés depuis 1992. Et puis aussi, il nous arrive de prendre une personne, notamment aujourd'hui en période de solde. Bon, mais il faut une personne supplémentaire parce que bon, il y a quand même un travail un peu plus important. Sinon, oui, c'est une affaire familiale.
Avant de passer à l'évocation de vos autres passions, puisqu'il doit y en avoir, puisque manifestement vous êtes un homme passionné, je voudrais vous demander comment, à quoi est-ce que vous attribuez la capacité extraordinaire à rebondir qui a caractérisé votre vie active, puisque votre vie active, ça a été une succession de rebonds, de prises de décision pour changer d'orientation suivant les opportunités qui se présentaient. À quoi est-ce que vous attribuez ça ?
Alors, j'attribue ça d'abord, alors je dirais, est-ce qu'on y croit, on n'y croit pas ? De la chance. De la chance, le volontarisme, et puis aussi la ténacité. C'est pas facile, hein, c'est pas facile du jour au lendemain de dire j'abandonne cette profession qui m'a nourri pendant des années et je vais me lancer dans autre chose. On sait qu'il y a un risque, mais on se dit aussi que si on est courageux, est-ce que je me trompe, mais si on est courageux, on y arrive. Il n'y a pas de montagne, bien des gens l'ont prouvé, il n'y a pas de montagne infranchissable, il n'y a pas d'obstacle infranchissable, si on a la moelle, si je peux me le dire, et si on est têtu, on y arrive.
Donc la prise de risque qui a caractérisé toute votre existence depuis votre jeunesse, c'est quelque chose qui vous paraît naturel et qui vous paraît être dans la démarche normale de quelqu'un qui veut s'en sortir.
Mais la prise de risque, attention, il ne faut pas non plus être inconscient du risque qu'on est obligé d'en prendre. Tous les gens qui sont aujourd'hui, bon, je ne me compare pas à eux, mais tous les gens qui sont aujourd'hui à la tête d'une grande entreprise, hein, qui sont... Ils ont pris des risques, ces gens-là. Ils ont bien souvent mis leur bien en jeu. Alors, il y en a qui ont perdu. Puis il y en a qui ont parfaitement réussi. Et puis voilà, il y a la prise de risque. Alors, il y a des gens qui pèsent le risque, qui le mesurent. Puis d'autres qui vont tête baissée, ce qui était un peu mon cas. Hein, je ne faisais pas d'analyse de terrain, je n'ai pas fait, comment dirais-je, d'études de marché. Je me suis lancé à chaque fois à corps perdu, et puis travailler, si je peux le dire, jour et nuit, voilà, pour essayer de s'en sortir. Et à la fin, ça paye. On s'en sort.
Voilà. Comme disent les Anglais, when there is a will, there is a way.
Bilingue, c'est bien.
Maintenant, Jean-Claude, est-ce que vous pouvez nous dire, en dehors de cette extraordinaire connaissance que vous avez des tissus, parce que c'est un monde, les tissus, hein, si on regarde le glossaire des tissus, on s'aperçoit qu'il y en a beaucoup plus de 100 dénominations de production différentes. Est-ce que vous avez le temps d'avoir d'autres passions et est-ce que vous arrivez à les exercer ?
Alors, oui, j'ai en principal deux passions. J'ai deux passions. Alors, la première, mais je crois qu'elles sont toutes les deux au même niveau, mais la première passion, c'est la pêche. J'adore la pêche. Parce que pour moi, la pêche, c'est de la détente. Il n'y a personne à côté de moi, on ne me parle pas, je suis tranquille. Je regarde l'eau, et ça, c'est royal. Et ma deuxième passion, c'est le potager. Alors, quand j'ai besoin, mais je ressens le même plaisir et je ressens la même tranquillité lorsque je vais dans mon potager, personne ne me parle. Voilà, je tourne, je vire, je regarde, est-ce que ça pousse, est-ce que ça pousse pas? Et là, c'est...
En revanche, vous parlez à vos légumes. Vous les regardez pousser, vous les entourez de soins. Pour la pêche, est-ce que vous êtes... ce qui est important pour vous, c'est la contemplation de l'eau et du bouchon, ou est-ce que c'est la prise? Est-ce que vous faites partie des gens qui prennent les poissons puis qui les rejettent, comme les fameux carpistes? Ou bien est-ce que c'est simplement le fait d'être comme ça, tranquille, au bord de l'eau, de regarder l'eau qui vous passionne?
Non, la pêche, je vais à la pêche pour prendre du poisson. Le poisson que je remets à l'eau, que j'essaie de ne pas blesser, que je remets à l'eau. Bon, bien sûr, si c'est la pêche en mer, c'est tellement bon que j'en garde quand même une partie pour ma consommation. Mais sinon, si c'est en étang ou en rivière, en général, le poisson, je le remets à l'eau. Bon, il n'est pas question que j'aille faire l'ouverture de la truite. Ça ne m'intéresse absolument pas. C'est pas de la pêche. La vraie pêche, c'est... Vous arrivez au bord de l'eau, vous avez préparé votre amorce, vous ne savez pas ce que vous allez trouver, vous ne savez pas s'il y a du poisson. Alors, en même temps, il y a, cette tranquillité, il y a également cette anxiété, est-ce que je vais trouver du poisson ou pas, chercher le poisson, changer d'appât, changer de ligne en permanence, changer de fond pour le trouver, ce poisson. Et il est là, de toute façon, on le sait.
Il y a aussi le grand frisson quand même quand ça commence à tirer.
Ah oui, là oui, parce que j'ai appris avec un fin pêcheur, j'ai appris qu'il fallait pêcher avec du matériel très très fin. Très fin, du fil qui fait 5 centièmes, des hameçons qui font des hameçons sans ardillon, du 22 ou du 24. Et là, effectivement, un hameçon de 22, vous prenez un petit zut, le nom m'échappe, tiens.
Un gardon.
Voilà, vous prenez un petit gardon, ça passe bien. Mais quand vous avez une truite qui mord sur un hameçon de 22, avec un film de 5 centièmes, là, ça fait drôle. Parce que ça tend à mort et on n'est pas sûr de sortir le poisson. Mais la pêche en mer, c'est pareil. C'est pareil. Et je dirais même que c'est... Là, c'est formidable parce que la mer, comme c'est très vaste... et que le poisson est totalement différent, en rivière, pas en rivière, en étang, on va prendre de la blette, on va prendre du gardon, on va prendre qu'est-ce qu'on prend d'autre? La blette, le gardon, le calicoba, etc. Bon, maintenant, ça nous arrive aussi de prendre une truite. Et une truite, c'est vrai que ça a un autre effet qu'un gardon. C'est beaucoup plus nerveux. Ça m'est arrivé en Bretagne, dans le Blavet, de pêcher de la brème. Alors même des grosses pièces, la brème, c'est bête comme pas possible. Vous la mettez sur son flanc et vous la sortez tranquillement. Cette même valeur de poisson en poids, si c'est nerveux, ça vous emmène tout, ça casse tout, et puis là, vous ne sortez rien du tout. C'est le deal. En fait, c'est la surprise. Vous ne savez pas ce qu'il y a au bout.
Jean-Claude, il va être temps maintenant de nous séparer. On vous écouterait encore longtemps nous parler des tissus, nous parler de votre vie si riche et nous parler de vos passions. En tout cas, merci beaucoup et nous vous souhaitons de continuer à pouvoir exercer ces passions aussi longtemps que possible.
Eh bien, je vous remercie et je remercie également les auditeurs. Bonne journée.
Merci. Comme toujours, chauffez les gars, je te le redis, je n'irai pas plus loin.
C'était Tranche de vie, une émission proposée par Jean-François.
T'as voulu voir du tronc et on a vu du tronc. J'ai voulu voir ta sœur, j'ai vu mon Valérien.